Ce passage de Romains 8, des versets 28 à 39, on peut le dire comme ça, est rempli de la dimension de l'amour de Dieu. Il est rempli de la dimension de l'amour de Dieu, et nous allons le voir. Au mois de juin dernier, dans la région parisienne, le salon aéronautique du Bourget a fêté son 50e anniversaire. Et si vous aimez l'aviation, eh bien, il y a un peu plus de 100 ans seulement que l'aviation avait fait ses premiers pas, que l'aviation avait connu ses premiers balbutiements. Et maintenant, de nos jours, il est commun de voir des avions comme des A380 qui transportent plus de 800 personnes voler dans le ciel. L'avion est presque devenu banal, un moyen de transport comme un autre. Cependant, un avion, et c'est là une image qui sera utilisée dans le message, un avion est un appareil extraordinaire. Parce que il a la capacité de vous arracher, de vous extirper à la pesanteur terrestre, pour vous amener à des milliers de kilomètres de votre point de départ, ça dépend où vous allez, mais il vous amène précisément à destination, et ça après des longues, longues heures de vol. Il faut le dire, un avion vous permet aussi de rentrer dans une autre perspective. Parce que c'est en prenant de l'altitude que vous pouvez mieux situer la profondeur des choses. C'est un peu comme si vous êtes au sommet d'une montagne. Vous pouvez mieux saisir la profondeur de la vallée qu'il y a en contrebas. Et en avion, on peut vraiment bien discerner la profondeur des choses. Et ce matin, je vous invite à saisir toute la perspective de l'amour de Dieu telle que la Bible nous la présente. Alors, on va faire un survol biblique, un survol dans toute la Bible. Rassurez-vous, ça ne va pas durer des heures et des heures. Ce sera une vitesse supersonique si je reste dans le même fil d'image. Mais ma prière, c'est que nous soyons interpellés par la grâce de Dieu en ce qui concerne la profondeur de l'amour de notre Dieu. 1 Jean 4, verset 8, nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et frères et sœurs en Christ, j'ai une question pour vous. Comment définiriez-vous l'amour de Dieu? Quel mot utiliseriez-vous si votre voisin, là où vous habitez, vous posez cette question, tu dis que Dieu m'aime, mais c'est quoi l'amour de Dieu? Comment est-ce que vous définiriez? Quel mot vous employeriez? Votre salut ne trouve sa source que dans l'amour de Dieu. Et si nous voulons mieux saisir la profondeur de l'amour de Dieu dans notre vie, alors il nous faut considérer comment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se sont progressivement révélés à nous dans toute l'Écriture. Et c'est ce que nous allons faire ce matin rapidement. Et la théologie a trouvé un mot pour nous aider à mieux comprendre, et ce mot c'est la Trinité. Alors pour certains, le concept de Trinité c'est complètement abstrait. Mais pour celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, eh bien, il découvrira que la Trinité, c'est l'expression même de l'amour de Dieu. Et c'est si riche qu'on pourrait y passer de longues heures. Mais juste, je dis ceci, l'expression de l'amour de Dieu à la fois dans la relation que Dieu entretient avec lui-même. Entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On va le voir un petit peu. Mais aussi dans la relation que Dieu entretient avec l'humanité. Alors nous allons faire ce survol biblique. Et le thème du message ce matin pourrait être résumé ainsi. Dieu le Père est pour nous. Dieu le Fils est avec nous. Et Dieu le Saint-Esprit est en nous. Alors premièrement, Dieu le Père est pour nous. Le premier livre de la Bible, Genèse, nous parle de la création. Et dès les premières pages, nous découvrons que Dieu a créé toute chose. Et qu'au milieu de sa création, il y a placé l'homme et la femme. Et notre Dieu est magnifique parce que tout ce qu'il a créé est parfait. Et Dieu, la Bible nous dit, créa l'homme et la femme à son image. Et toute chose dans la création était favorable au bonheur d'Adam et Ève. Mais, dans ce que Dieu avait attendu d'eux, Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à l'ordre divin. Et leur attitude revenait à dire, « Eh bien Dieu, nous ne voulons pas de toi dans notre vie. Nous ne voulons pas écouter ton conseil. Nous voulons faire comme bon nous semble. » Et je suis sûr que chacun dans notre vie, nous avons connu ce genre d'attitude. Adam et Ève agissant ainsi face à leur Créateur, eh bien Dieu avait toutes les bonnes raisons de se déclarer contre eux, de les rejeter. Parce que Dieu recherchait leur bien, mais Adam et Ève ont dit non, on fait ce qu'on veut, on veut faire ce qu'on veut. Et face à tout ce que Dieu avait créé pour leur bonheur, eh bien le Créateur ne récolta que le mépris de ses créatures au travers de la réaction d'Adam et Ève. Mais qu'est-ce que la Bible nous montre ? Eh bien que Dieu a cependant continué à les aimer. Genèse 3:21 nous dit que après qu'Adam et Ève ont péché, ils ont découvert leur nudité, mais Dieu dans sa grâce les a couverts et a pourvu à des vêtements pour eux. Et ensuite, dans le fil de l'Ancien Testament, nous découvrons le peuple d'Israël. Et son histoire est comme un reflet de l'histoire de notre humanité. Qu'est-ce qu'a fait Israël ? Eh bien, à cause de ses mauvaises œuvres, il s'est souvent attiré le jugement de Dieu. Pourtant, Dieu avait délivré son peuple de la tyrannie de l'Égypte. Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Dieu l'avait mené jusqu'au pays promis, il l'avait fait. Et malgré tout cela, nous lisons dans la parole qu'Israël voulait souvent faire comme les nations qui l'environnaient. Et là encore, Dieu avait mille et une bonnes raisons de rejeter son peuple, de dire « ça suffit, c'est assez ». Et Israël, il faut voir le livre des Juges par exemple, et bien Israël s'enfonça parfois gravement dans le péché. Et au fond de nos cœurs, on peut faire un parallèle. Il y a bien des choses au fond de nos cœurs qui, si elles étaient révélées au grand jour, si elles étaient révélées de manière publique, eh bien, nous mettraient vraiment dans l'embarras. Mais Dieu, dans sa grâce, que fit-il ? Il ne détruisit pas son peuple. Il envoya ses prophètes pour l'avertir, tel un Michée, tel un Sophonie. Oui, les prophètes ont averti que le jugement allait rencontrer Israël. Parce que notre Dieu est juste et saint. La Bible nous dit clairement que ce que l'on sème, on le récolte. Mais pourtant, au milieu même de ces sombres prophéties de jugement, il y a toujours, toujours une lueur d'espoir. Le soleil de l'amour divin veut toujours finir par percer. Et c'est ainsi que Dieu se révèle à nous dans l'Ancien Testament. Il avait de bonnes raisons de nous rejeter. Il avait de bonnes raisons de dire stop. Mais il se révèle à nous dans l'Ancien Testament de cette manière. Il ne demande qu'à nous sauver. Il est pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Dieu le Fils est avec nous. Dans les évangiles se réalisent les prophéties de l'Ancien Testament. Un sauveur nous est né. Jésus est venu parmi nous. Et Dieu a fait un pas de plus en notre direction. Il s'approche de nous en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est à la fois parfaitement Dieu, mais en même temps parfaitement homme. Dieu ne vit pas dans les nuages. Dieu n'est pas là d'une manière lointaine, comme voudrait nous le faire croire une certaine représentation populaire. Non. Est-ce que vous voulez connaître Dieu ? Eh bien, regardez bien à son Fils, Jésus-Christ. Si vous voulez connaître Dieu, regardez bien à son Fils, Jésus-Christ. Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jésus-Christ nous a fait connaître le Père. Et Hébreux 1, les trois premiers versets, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Dans une enquête policière, les premiers indices qui sont recherchés, ce sont les empreintes. C'est quoi les empreintes ? C'est les caractéristiques uniques d'un individu. Ce sont elles qui permettent de distinguer précisément un individu plutôt qu'un autre. Et Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Et si vous voulez connaître Dieu, eh bien regardez bien à Jésus. Dieu était pour nous, et maintenant il est avec nous, en Jésus-Christ, dans notre humanité. Et en Jésus-Christ, Dieu se révèle à nous sous un aspect tendre, sous un aspect rassurant. Il est venu comme un bébé. Il n'a effrayé personne, ça a attendri tout le monde, un bébé. Pourtant, il est le roi. Pensez, en Jean 8, à cette femme pécheresse, à cette femme découverte adultère que les hommes religieux voulaient condamner, qu'ils voulaient lapider, parce que la loi le disait. Oui, c'est vrai, le péché entraîne toujours des conséquences. Il existe des personnes qui voudraient ne pas avoir à subir les conséquences de leur péché, tout en continuant à vouloir pécher. Jésus est venu pour nous guérir de nos maladies. Encore faut-il, si nous voulons être guéris, suivre la prescription divine. Et qu'est-ce que fit Jésus face à cette femme adultère ? Eh bien, il ne lui jeta pas la pierre, mais il lui dit « Va et ne pêche plus ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Eh bien, tout d'abord parce que Jésus nous invite à faire demi-tour. Il nous invite à la repentance. Il nous invite à vraiment changer de cap dans notre vie. Mais Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus ». Parce que le Fils de Dieu a été avec nous pour nous montrer, comme nous le dit Jacques de Trèves, que la miséricorde triomphe du jugement. Jésus est venu non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et les sombres nuages du jugement de Dieu contre nos péchés, eh bien c'est Jésus qui va les rencontrer à notre place. Merveilleux verset que Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Cela nous montre que Jésus est avec nous. Et au passage, ce que Jésus a fait à la croix reflète la parfaite harmonie qu'il existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, nous dit 1 Jean 4, 15. Et Jésus dira en Jean 10:17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il y a une parfaite harmonie entre le Père et le Fils. C'est une harmonie d'amour. Et cela nous mène au cœur même de l'Évangile. Jean 3:16-17. Nous connaissons Jean 3:16. Le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce message est pour vous. Ce message est pour nous tous. Dieu le Fils est avec nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Troisième point, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pardon, est en nous. Après les évangiles se trouvent les derniers livres de la Bible qui nous parlent principalement de la naissance de l'Église, les épîtres notamment, le livre des Actes. Mais comment s'inaugure la naissance de l'Église dans le livre des Actes? Eh bien là encore, comme à chaque fois précédemment, là encore, par une initiative de Dieu. Une initiative de Dieu dans son amour. Et comment l'Église a pris naissance? Eh bien, au travers de l'envoi du Saint-Esprit. Et plus que d'être pour nous, plus que d'être avec nous, Dieu désire établir sa présence en nous. Établir son amour en nous par son Saint-Esprit. Pourquoi? Et on peut le voir ainsi. Quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce qui vous réjouit le plus quand vous aimez quelqu'un? Eh bien, c'est simplement de pouvoir partager la présence de la personne que vous aimez. Et si on pense ainsi, ainsi en est-il de Dieu avec son peuple. Dieu nous aime tant qu'il a offert son Fils pour notre salut. Et nous aime tant qu'il place dans le cœur, dans la vie de chacun de ses enfants, les arts de sa propre identité, les arts du Saint-Esprit. 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est pas écrit et nous le serons, c'est écrit et nous le sommes. Et nous découvrons ainsi dans les Épîtres que la présence du Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant. Et que génère la présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant? Bien tout d'abord, premièrement, magistralement, nous découvrons et nous possédons l'amour de Dieu. Mais c'est ce même Saint-Esprit qui nous procure la paix de Dieu face à nos inquiétudes. C'est ce même Saint-Esprit qui nous procure cette sainteté de Dieu, qui au travers de notre obéissance dans la foi, eh bien, nous libère petit à petit de l'emprise du péché et nous rend vraiment libres comme Jésus l'a promis. C'est ce même Saint-Esprit qui nous procure la puissance de Dieu dans notre vie, cette puissance qui nous permet d'avancer jour après jour face à tout ce que Dieu permet dans notre vie et d'avancer toujours confiant envers lui. Dieu, le Saint-Esprit, est en nous en tant que croyants. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Toutes ces grandes vérités, elles doivent influer notre quotidien. Elles doivent influer notre quotidien au point de le transformer de jour en jour. Il y a quelques mois de cela, j'ai dû prendre l'avion pour me rendre en Écosse. Pour celles et ceux qui ont pris l'avion, peut-être avez-vous vécu pareille chose. Mais un des vols que j'ai dû prendre s'annonçait mal, parce qu'avant que l'avion ne décolle, la météo n'était pas bonne. Il pleuvait. Le ciel était vraiment gris. Et plus que cela, il y avait des bourrasques de vent. Et pas des brises, mais vraiment des bourrasques de vent. Alors quand l'avion a pris son envol, je vous laisse imaginer, c'était pas très relax. Et c'était pas la première fois que je prenais l'avion, donc j'étais un peu habitué à ce genre de choses, mais franchement, ça bougeait dans tous les sens, parfois il y avait des trous et on n'était pas très à l'aise. Mais au fur et à mesure que l'avion montait, poussait, à un moment donné, il arrivait au-dessus des nuages. Alors là, ça a été vraiment un énorme changement. Le jour et la nuit, on pourrait dire. L'avion était parfaitement stable, parfaitement calme. On était relax. Et j'étais assis à côté d'un hublot et j'ai dû baisser le petit rideau là parce que le soleil brillait dans toute sa force. Le soleil était bleu. Le ciel, pardon, était bleu. Tout avait changé. Au-delà de notre propre horizon ici-bas, au-dessus, juste au-dessus, il existe une autre réalité, celle de l'horizon de notre Dieu. Oui, notre quotidien peut être parfois comme ce ciel gris, voire ce ciel mouvementé, voire un ciel orageux. Et cela peut nous affecter, oui. Mais, si notre quotidien est vécu par la grâce et par la force de notre Dieu, eh bien il devient une autre réalité. Notre foi nous extirpe de la pesanteur de notre monde, de la pesanteur de nos difficultés, pour nous placer au-dessus de nos nuages. Et cela appuyé sur les promesses de notre Dieu, qui jamais ne faillit à sa parole. Ainsi, pour conclure, la doctrine de la Trinité nous révèle toute la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Ce rapide survol biblique nous permet de prendre de la hauteur, nous offrant par là même de mieux saisir la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Au-delà de votre propre horizon ici-bas, existe une réalité permanente, bien supérieure à la nôtre. Et cette réalité-là, c'est celle de notre Dieu. Cette réalité-là, elle existait bien avant vous. Elle existera bien après vous, parce qu'elle est éternelle. Un père de l'Église, dans les débuts du temps de l'Église, a dit ceci: nous avons dans l'Ancien Testament un Dieu pour nous. Nous avons dans les évangiles un Dieu avec nous. Et nous avons dans les actes et les épîtres un Dieu en nous. Et ce survol biblique constitue le fond de l'évangile. Entre Dieu et son peuple, c'est une histoire d'amour, où Dieu a toujours pris l'initiative dans sa grâce. Dieu a ouvert mon cœur à l'évangile au travers du prophète Sophonie. Sophonie parle principalement du jour du jugement. Si vous ne connaissez pas le prophète Sophonie dans la Bible, je vous invite à lire. C'est pas très long. On peut le lire d'une seule traite. Mais la description que Sophonie fait du jour du jugement, elle est littéralement terrifiante. Elle est littéralement terrifiante. Mais même au travers de cette description, au-delà de ces sombres nuages noirs qui s'annoncent, eh bien le soleil de l'amour divin brille toujours pour le peuple de Dieu. C'est ce qu'on voit aussi dans cette prophétie. Je vais lire juste Sophonie 3, verset 17, qui dit ceci: l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Une version peut-être moins simple à lire, mais plus fidèle aux textes originaux, la version Darby, dit ceci: il s'égaiera, c'est-à-dire Dieu s'égaiera en toi avec chant de triomphe. Avec chant de triomphe. C'est le plus proche lors de la traduction originale. Et posons-nous juste un instant. C'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Quand le peuple de Dieu sera réuni dans la présence de son grand Créateur, de son Sauveur, la Bible nous dit que Dieu aura pour lui comme des chants de triomphe. On n'est pas habitué à penser comme ça. C'est comme si Dieu chantera de joie, de triomphe, d'avoir son peuple bien-aimé en sa présence. Ça me fait penser à l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ, qui doit se préparer à rencontrer son divin époux. Si vous êtes appelé enfant de Dieu ce matin, eh bien rappelez-vous que Dieu est pour vous, que Dieu est avec vous, que Dieu est en vous. Et cela doit nous inciter à lever les yeux de notre cœur par la foi, jour après jour. Oui, Dieu, tu connais mon départ, mais tu connais mon arrivée et tu vas mener toutes choses à bonne fin pour moi. Tu es mon Dieu et je veux te suivre. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. C'est là votre perspective de vie, frères et sœurs. C'est là, passez-moi l'expression, votre trajectoire. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Votre destination finale, elle n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Il n'y a pas, je reprends l'analogie avec les avions, il n'y a pas d'atterrissage en ce qui concerne la foi. Ce n'est pas comme un avion qui doit toujours s'atterrir sur la terre. Un jour, vous entrerez pour toujours dans la présence de votre Dieu. De ce Dieu qui aura pour vous des transports d'allégresse si vous êtes de son peuple. Frères et sœurs, ce matin, gardez bien votre perspective. Dieu est pour vous. Il est avec vous. Et il est en vous. Et c'est tout ce que la Bible, dans son panorama, c'est tout ce que la Bible nous révèle. Et s'il y a des amis ce matin qui parmi nous ne connaissent pas ces réalités dans leur vie, eh bien je conclurai en disant ceci. La parole de Dieu veut vous interpeller. Dans le dernier livre de la Bible, en Apocalypse, dans le chapitre 4, nous découvrons que des êtres célestes ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Jour et nuit, il y a des êtres célestes qui ne cessent de dire ça. Et dans le même livre de l'Apocalypse, dans le tout dernier chapitre, dans les tout derniers versets, la grâce de Dieu est encore offerte à qui veut l'entendre. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Sachez qu'il existe. Au-delà de votre propre horizon terrestre, une réalité glorieuse. Celle de Dieu, qui finira tous par nous rencontrer un jour. Jésus, qui a été l'empreinte de Dieu parmi nous, n'est pas venu pour vous juger, mais il est venu pour vous sauver. Alors laissez-vous toucher par son amour. Parce que Jésus vous dit, Jésus nous dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen.